je suis enseignante chercheur à l'Université de Rapp et membre aussi du réseau scientifique Terra, qui travaille sur les questions de migration et socialement politique, mais maintenant aussi environnementale. On est une équipe d'une dizaine de chercheurs émis au sein de Terra, qui travaillons en particulier sur la question du changement climatique, sur un projet financé par le GICC, le projet EXCLIM. Un projet qui commence juste, donc je n'aurai pas beaucoup d'éléments à vous apporter sur la question de l'adaptation. Notre terrain commence là, ces derniers mois, on a fait nos premiers voyages. Je vais plutôt vous donner quelques éléments de problématiques sur la façon dont on aborde la question de migration environnementale et puis en particulier la migration climatique. Alors, pour commencer par dire que la communauté scientifique n'a pas attendu la montée en puissance du débat sur le changement climatique pour commencer à parler du lien entre migration et environnement. Il y a eu déjà des travaux, j'ai mis celui de 85 parce qu'il est très connu, beaucoup cité, mais même avant, on peut trouver des recherches sur les questions de migration environnementale. Malheureusement, encore aujourd'hui, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'un migrant de l'environnement et on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'un migrant climatique. J'ai mis comme exemple les trois décennies 80, 90, 2000, des définitions qui sont données par des spécialistes de notre petite communauté, où vous voyez finalement que ces définitions sont très vagues. On parle des ruptures environnementales, des différents problèmes environnementaux, de changements de l'environnement. Donc on ne sait pas très bien qui sont les migrants environnementaux à ces moments. Grosso modo, on a identifié quelques causes de migration environnementale, que je cite ici, et dans ces causes, il y a la question du changement climatique. Est-ce qu'on sait un peu plus sur qui est un migrant climatique? Encore une définition proposée dans un papier de l'AIEM, l'Organisation internationale sur les migrations, qui reste également assez vague. Je vous parle des différentes causes qui liées au climat et qui peuvent provoquer des déplacements des populations. Est-ce qu'on sait où ces déplacements vont apparaître? Je dirais un peu partout. Bien sûr, en particulier l'ONU met l'accent sur les zones les plus vulnérables qui correspondent aux pays moins avancés, moins développés. Mais néanmoins, des travaux commencent à apparaître aussi concernant les pays développés. Donc on a des études en Europe, aux États-Unis, et on voit que ces liens entre climat et déplacement des populations est valable aussi pour les pays dits développés. Combien de personnes sont concernées par ces phénomènes? Encore on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas exactement définir où et qui. Donc, différentes thèses existent qui vont de 200 millions à 1 milliard. Un scientifique Myers, qui a beaucoup travaillé parmi les premiers sur la question de migration environnementale, est plutôt sur les chiffres de 200-250 000 pour 2050. Le haut commissaire du HCR a parlé de 250 millions, probablement 1 milliard. Christian Aid, qui a sorti un rapport, si je ne me trompe pas, il y a un an ou deux, parle de milliards de personnes déplacées en raison du climat. On n'est pas face, ni pour ce qui concerne le migrant environnemental, et en particulier ni pour le migrant climatique, à un problème bien identifié, bien défini sur le plan international. On en discute beaucoup, et de plus en plus, c'est à la mode. Mais comme il n'y a pas une convention, un texte officiel qui nous dit exactement qui c'est, on ne peut pas dire qui est concerné Et donc, combien de personnes seront déplacées dans le temps? Donc, construire sur l'espace public précisément le problème. Donc, que faire? La communauté des spécialistes de migration environnementale, mais aussi les associations qui se sont mises à travailler sur la question et à essayer, disons, de soutenir ces populations en danger, revendiquent majoritairement la mise en place d'une convention, une convention spécifique pour la protection des migrants de l'environnement. Il y a eu beaucoup de discussions. Dernièrement, il y a un an, si je ne me trompe pas, les Verts au Parlement européen avaient organisé une conférence. Ils ont proposé une déclaration qui n'a pas été signée finalement par le Parlement, justement pour la reconnaissance des migrants climatiques et la mise en place d'une convention de protection de ces personnes-là au cas de déplacement. Il y a une proposition de convention issue des juristes de Limoges, qui a beaucoup circulé aussi, qui n'a toujours rien donné. Pourquoi? Bon, pour plusieurs raisons, mais je pense que la principale raison, c'est qu'on est à une époque où on vit la fermeture des frontières. Même les migrants politiques ont du mal à traverser les frontières et se déplacer des pays au pays, et en particulier de venir vers les pays dits développés. Les membres des grandes institutions internationales, en particulier de l'ONU, qui ont le contrôle, bien sûr, de ces institutions, des pays développés, n'osent pas aborder la question et essayer de proposer un modèle de convention comme celui de Genève, que vous connaissez peut-être, la convention de Genève qui a reconnu le statut du réfugié politique, hein, des personnes qui sont chassées de leur pays pour leurs convictions politiques, leur race, et qui, dont la vie est en danger, et qui ne sont pas protégées par leurs États, peuvent traverser leurs frontières, aller à l'étranger, demander l'asile, et donc ils obtiennent un statut, ils sont protégés, ils ont une carte de résident, et ils peuvent recommencer leur vie ailleurs. Donc c'est sur ce principe-là que la communauté des scientifiques et le monde associatif qui travaillent sur la question a orienté ses revendications. Et bien sûr, rien n'est fait en ce moment sur cette voie-là. Autre scénario qui est évoqué par rapport à ces questions de migrants environnementaux et en particulier des migrants climatiques, en fait, ce qui se passe progressivement et surtout depuis les années 2000, c'est qu'on met de plus en plus de côté la question du migrant environnemental. Donc toutes les autres causes des migrations reculent et l'attention se concentre de plus en plus à la question climatique. Bien ou pas bien, je dirais les deux. C'est vrai que le débat sur le changement climatique a permis à l'enjeu migration environnementale de monter sur l'agenda. Donc ils se sont rattachés au débat climatique pour dire, mais voilà, c'est une question très importante, en particulier à travers le climat, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont se déplacer dans le temps. Donc ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que quelque part, et on va le voir un peu avec le débat sur l'adaptation, la question des migrations, finalement, elle disparaît pas, mais elle devient vraiment secondaire dans les débats climatiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc finalement, elle recule derrière les débats climatiques, même si elle a pu, dans un premier temps, se renforcer et monter sur l'agenda à cause justement du débat sur le changement climatique. Ce qui est aussi proposé par rapport à cette question des migrants climatiques, c'est d'utiliser les conventions existantes et les textes internationaux existants pour permettre de protéger ces populations. Qu'est-ce que ça peut être? Je croyais là-bas développer, mais non. Qu'est-ce que ça peut être, ces textes existants pour aider ces populations à survivre, à faire face à une crise environnementale, qui peut être une crise brutale, hein, inondation, cyclone, un incendie sauvage, mais lente aussi, sécheresse, désertification, qui fait déplacer les gens par petits pas dans le long terme. Tout d'abord, il y a une pratique, c'est pas un texte légal, de déplacés internes que le HCR a mis en place, qui permet à des gens qui se déplacent à l'intérieur de leurs frontières d'avoir un cadre, d'être aidés par les institutions internationales dans des lieux organisés, de façon à avoir le nécessaire pour survivre. C'est une pratique que le HCR a déjà mis en place pour des gens victimes de grandes catastrophes naturelles. Oui, en particulier, le HCR se trouve dans une position assez charnière, je pense, par rapport à cette question. Le HCR, c'est le commissariat aux réfugiés, c'est une institution qui a toujours travaillé pour appliquer la Convention de Genève. Donc, il n'avait rien à faire avec l'environnement. Pas de spécialistes de l'environnement, pas de problématiques environnementales. Et donc, elle s'est trouvée, à travers le débat sur le changement climatique, il s'est trouvé au milieu... et devoir prendre position. Donc pendant très longtemps, il a résisté. Il a résisté en disant qu'on ne peut pas parler surtout de réfugiés environnementaux, ça n'existe pas. Le réfugié, s'il existe, il est politique et il est protégé par la Convention de Genève. Il n'en est pas question d'intégrer une problématique environnementale dans la Convention de Genève. Mais de plus en plus, avec la montée du changement climatique, il commence, et c'est vraiment très, très nouveau, le HCR commence à changer de position. Et les hauts commissaires du HCR, au mois d'octobre dernier, a publié un article où il reconnaît que le changement climatique peut amener des gens à perdre leur lieu de vie, les éloigner de leurs états ou faire disparaître leurs états, en pensant à des cas, par exemple, des îles du Pacifique, hein, Tuvalu, qui risque d'être submergée sous l'eau, donc la population se trouve sans son territoire, et que donc la problématique de réfugiés, dit dans ce texte le commissaire, pourrait éventuellement s'étendre à des populations victimes du changement climatique. Donc c'est la première ouverture qu'il a laissée, sans néanmoins procéder à l'organisation des colloques, premier brainstorming pour voir comment éventuellement cette prise en considération officielle pourrait se faire. Ensuite, donc il y a pour le moment, il applique le système de déplacés internes, qui est officieux, n'est pas un système officiel de protection. Ensuite, il y a une convention que vous connaissez sûrement, la Convention sur la lutte contre la désertification. C'est le seul texte international qui reconnaît un lien entre environnement et migration. Il dit, je crois que c'est dans le préambule, la corrélation qui existe entre les phénomènes de désertification, de sécheresse et ceux qui découlent des migrations, des déplacements des populations et de la dynamique démographique. C'est le seul document qui permet de marier les deux problématiques, sociales et environnementales. Donc avec une application spécifique, une interprétation spécifique de la Convention sur la lutte contre la désertification, on pourrait éventuellement prendre en considération la question des déplacés. Ensuite, il y a toujours cette Convention de Genève, je vous dis, il y a cette première ouverture de la part du HCR pour des populations qui n'ont plus d'État. Donc, ils ne peuvent pas s'appuyer sur leurs autorités publiques pour survivre. Pour éventuellement donc ouvrir vers eux la Convention de Genève. Et puis il y a aussi une convention qui est tombée en désuétude, qui pourrait aussi aider ces populations, les migrants climatiques, c'est la Convention sur les apatrides, qui a été votée en 1954 et qui n'a pratiquement jamais servi à quelque chose. Et d'ailleurs, au sein des Nations Unies, il y a plusieurs demandes de réactiver cette convention, et ça pourrait être une façon de protéger ces populations qui se déplacent parce que leur territoire est inondé, disparu, pour leur permettre de trouver assistance. Et puis, troisième façon de faire, l'adaptation. L'adaptation est, je dirais que finalement, par effet pervers, est plutôt devenu, peut-être pas un ennemi, mais un frein à la reconnaissance du problème de migrants ou de réfugiés climatiques. Pourquoi cela ? Bon, l'adaptation peut être vue de deux façons, en fait. Développement des politiques, des mesures, des travaux d'adaptation dans des territoires vulnérables, parce que je vous en avais parlé ce matin. Ce qui signifie concrètement faire en sorte que les communautés vulnérables soient moins vulnérables et que des phénomènes de migration n'apparaissent pas. Donc, prévenir à ce qu'il n'y ait pas de migration. Donc, tous les débats sur l'adaptation, qui a vraiment explosé à partir des années 2000, on a vu que si, pendant un temps, il y avait deux problématiques et deux communautés qui débattaient sur, d'un côté, mesures de mitigation, d'atténuation et mesures d'adaptation, le volet adaptation prend de plus en plus de place dans les débats internationaux. Et le PNUD, le plan des Nations Unies pour le développement, a un poids considérable justement sur cette problématisation, sur mettant l'accent surtout sur l'adaptation au changement climatique. Donc cette problématique-là ne peut pas intégrer la question de la migration. Parler de la migration, c'est reconnaître a priori, par anticipation, l'échec de l'adaptation et dire ah ben, il va y avoir des migrants. Donc, considérant qu'il y a un problème de migration et mettant en place une politique publique. Vous voyez, c'est très contradictoire, parler à la fois d'adapter et d'émigrer. Et effectivement, dans les débats sur l'adaptation, on ne voit jamais référence à la question de migration. Et les quelques projets, parlait Jeff, surtout les Global Environmental Fund, qui ont été financés ou proposés pour financement sur l'adaptation, la question de migration n'est pas citée, n'est pas évoquée. Donc, à travers les débats sur l'adaptation, la question du migrant environnemental, du migrant climatique, devient un non-problème. L'autre mécanisme, l'autre référence à la question de l'adaptation par rapport aux migrations, c'est voir la migration comme un mécanisme d'adaptation. Et là, c'est l'IOM, l'Organisation internationale sur les migrations. D'ailleurs, Philippe Boncourt devait parler sur ça aujourd'hui, mais la communauté des spécialistes sur les migrations environnementales ont un colloque ce même jour, 15-16, à Marseille, sur les migrations environnementales. Donc, du coup, toute la communauté a disparu. Par chance, je suis là. Et donc, s'il était là, Philippe Boncourt, vous parlerez essentiellement, je pense, de ces questions-là, parce que c'est le cheval de bataille de l'IOM. Arrêtons de voir la migration comme un problème et commençons à voir la migration comme une solution au changement climatique. Qu'est-ce qu'ils essayent de promouvoir en fait l'IOM? Ils nous disent que on peut commencer dès aujourd'hui à organiser des plans de déplacement massif de population dans différents endroits par rapport à la vulnérabilité et les risques encourus, de façon à ne pas avoir à gérer des crises demain. J'ai le sentiment que l'IOM est assez seule en fait à soutenir cette position-là. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les États sont assez réservés depuis maintenant un certain nombre d'années sur les questions de migration, donc ça serait vraiment très improbable qu'au sein des Nations Unies, on commence à discuter entre États, oui, à discuter entre États de qui va recevoir combien de migrants environnementaux ou climatiques chez lui. Deuxièmement, il y a un grand risque des pays voisins des zones très vulnérables d'avoir à assumer seuls le coût de déplacement. Donc, si Tuvalu soit sous l'eau, c'est la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui va assumer les coûts. Donc, du coup, il y a un risque de non-répartition équitable de la responsabilité entre États. Et puis, en même temps, les populations elles-mêmes ne veulent pas partir dans cette problématique que vous nous considérez a priori comme en train de partir de chez nous. Donc, eux aussi, les populations locales bloquent le débat sur une telle perspective. Donc, j'ai fini puisque mon doigt est écoulé. Avec cette question que je pense, est-ce que finalement, à travers la problématique sur l'adaptation au changement climatique, la question des migrations environnementales, des migrations climatiques, qui, à travers une communauté à la fois scientifique et des associatifs, qui luttent pour l'imposer sur l'agenda international comme un problème en soi, est-ce que finalement, nous ne trouvons pas, à l'inverse, face à un non-problème ou finalement pas de problème du tout, à une solution, comme le propose l'AIOM. Vous voyez cet aspect contradictoire qu'il y a entre cette problématique sur l'adaptation et la problématique sur la migration climatique. Voilà, je...